Alors, ce sont des noms français, vous pouvez c'est Claude Saint-Martin, par exemple, c'est Martinez, enfin, Martinez, ou Martin. Il y a deux, sans doute deux l'un qu'on appelle Martinez, l'autre Claude Saint-Martin, et qu'on confond. Puis il y en a d'autres. Et puis il y en a d'autres partout, à Haïti, il y aura celui qu'on appellera le Baron Samedi, qui fondera le nouveau vaudou sur les anciens cultes. Alors là, les cultes noirs, pas les cultes indiens, mais enfin, c'est la même chose, c'est la recherche d'origine. Et dans ces sectes, et notamment les Redman, les hommes rouges, eh bien, on aura un vocabulaire qui ressuscitera, qui tentera de ressusciter les vocabulaires indiens. On parlera de wigwam, on parlera de totem, on parlera de skull, etc. Et puis, il y aura d'autres mouvements qui vont se développer tout au début du 19e. Je ne peux pas vous en parler d'une manière trop approfondie, mais enfin, je vais vous parler de quatre grands mouvements qui ont structuré un petit peu le conflit, notamment de la guerre de sécession. Et nous verrons pourquoi on était obligé d'arriver à la guerre de sécession. Je parlerai des Mormons, du Brook Farm, le mouvement transcendantaliste américain. Et puis, et ensuite, nous parlerons après du Ku Klux Klan, des mouvements paganistes modernes, et nous tâcherons d'aller jusqu'à maintenant. Mais je vais peut-être vous laisser 5 minutes ou 10 minutes récupérer. Les grandes quêtes mythologiques et réelles, et géographiques, je dirais, de l'humanité, semblent reproduire toujours le même schéma depuis au moins 6000 ans. Il y a un mouvement des peuples vers l'ouest, vers Rome, vers l'Amérique. Mais avant, il y a eu le mouvement des Asianites vers la Mésopotamie, les grands voyages de Gilgamesh, le roi de Sumer, vers le Liban, les voyages de Jacob et de ses fils vers l'Égypte, où ils ont été maîtres. Merci beaucoup. Et puis, il y a un mouvement inverse vers l'Est, où les gens semblent revenir à leurs ancêtres, revenir à leurs sources. La quête du Graal dit bien ça. Il y a un moment où les chevaliers vont depuis Rome jusqu'en Bretagne continentale, et puis jusqu'à la Grande-Bretagne, et puis jusqu'au Pays de Galles, et puis jusqu'à l'Irlande, et puis ils sont arrêtés par l'océan. Et c'est ce voyage vers l'ouest que Christophe Colomb poursuit, en sachant ce qu'il fait, en sachant qu'il va au-delà, vers un autre paradis, vers un autre ciel. Vous savez qu'il croira qu'il a trouvé le paradis à un moment. Et il y aura le mouvement inverse où, au contraire, par exemple, les Américains chercheront leurs sources en Europe, chercheront leurs origines et leurs pensées de base. Les grands écrivains américains du milieu du 19e, dont nous avons parlé tout à l'heure, feront ce mouvement. Mais il y a aussi, en même temps, entre les deux, si vous voulez, entre le moment où les peuples vont vers l'ouest et un moment où ils refluent vers l'est, il y a un conflit, entre le nord et le sud. C'est étonnant, mais il se retrouve presque toujours. Il y a un moment où les peuples du nord refusent les peuples du sud et à l'inverse. Pour parler de la France, ça se situe pendant la guerre de Cent Ans. Hein. En fin de compte, qu'est-ce que Jeanne d'Arc ? Jeanne d'Arc, c'est quelqu'un, c'est quelque chose, c'est un mythe, c'est aussi, bien sûr, une sainte, mais c'est d'abord un mythe, qui veut sauver le roi de la domination du Nord. vers la domination des Germains, des Anglais. La France est encore quand même une colonie anglaise aux trois quarts. Elle veut sauver le roi pour l'arracher au nord, pour le rapprocher d'un roi chrétien, d'un roi catholique, d'un roi latin. Et ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle contribue à faire, c'est précisément de chasser les Anglais, de chasser les Bourguignons. Elle ne refera pas entièrement, mais Louis XI continueront, puis les Valois continueront pour créer un roi du Sud, un roi latin, contre les rois barbares, en somme, du Nord. Eh bien, c'est la même chose. Ça serait, je vous montrerai la même chose en Russie, je montrerai la même chose en Islam. Mais là, nous parlons de l'Amérique. Qu'est-ce que c'est que la guerre de sécession ? C'est un conflit entre le Nord et le Sud, tout le monde sait ça. Mais qu'est-ce que ce Nord et qu'est-ce que ce Sud ? J'ai dit qu'au Sud, il y avait les Bouviers, il y avait les Cowboys, il y avait les Texans, il y avait les Virginiens, il y avait les Acadiens, il y avait les anciens seigneurs, les derniers fils de rois. Mais ces hommes n'étaient pas humanitaires, ils n'étaient pas socialistes du tout. Ils ne songeaient pas à l'égalité entre les peuples, pas du tout. Pour tout dire d'un mot, c'était des esclavagistes. Ils avaient fait venir les Noirs d'Afrique, et de ces Noirs, ils avaient fait des esclaves, c'est-à-dire des gens qui étaient dans la tradition chrétienne, parce qu'il y avait toujours eu des esclaves dans la chrétienté, des serfs. L'amour ne connaît pas l'égalité. L'amour vit de la préférence. Où il y a préférence, il n'y a pas égalité. Mais ces hommes, ces esclavagistes, ces hommes qui ne croyaient pas à l'égalité des races, avaient le culte des races. C'est ça qui est étonnant et qu'il faut bien comprendre. C'est pourquoi il y a tant d'histoires d'alliances des hommes des Européens, des Buffalo Bill, le nom m'échappe maintenant, bon, il y en a trop, mais même des Outlaws, même des hors-la-loi, avec les Indiens, les éclaireurs, les fameux éclaireurs qui sont presque toujours là, pour essayer de faire la paix, alors que les troupes américaines essaient de massacrer les Indiens, il y a toujours un de ces hommes qui est au milieu qui dit « Mais non, laissez chacun vivre, laissez-les vivre comme ils... Vous ne comprenez rien aux mœurs des Indiens, c'est pas les vôtres, alors ne les massacrez pas parce que vous ne les comprenez pas. » Il y a un amour réel, le mot n'est pas excessif, pour la race. Le sens de la race et l'amour de la race sont de pair, il y a des alliances. Et au point, nous avons vu qu'il y avait des sectes européennes, occidentales, qui s'appelaient des hommes rouges, etc., et qui essayaient de rénover les sources de l'Amérique profonde, en quelque sorte les sources indiennes, pour rouges. Et paradoxalement, à première vue, mais si vous réfléchissez bien, ça ne vous semblera pas étrange. Mettons paradoxalement, les gens du Nord, les puritains, les juifs, les rationalistes, qui veulent l'égalité, qui ne peuvent pas supporter l'idée d'esclavage, qui ne peuvent pas supporter l'idée que les hommes ne soient pas égaux. Leur grand prophète, ça sera leur grand apôtre, ce sera Lincoln qui fera la guerre de sécession. Mais l'honnêteté, l'humanité, la philosophie profonde d'un tel homme est hors de doute. Cet égalitarisme, qui est celui des révolutionnaires français, les révolutionnaires français en avaient déduit que les juifs est comme le non-juif, contre la volonté des juifs. Et bien de la même façon, pour les gens du Nord, les gens du Nord, appelons-les leur nom, les fédéraux, ils ne peuvent pas tolérer qu'il y ait des races. Le noir doit être traité comme le blanc, c'est possible. Il ne peut pas être esclave. Mais aussi, s'il n'y a pas de race, la prétention des Indiens à vouloir rester des races, c'est inadmissible. Parce que s'il n'y a pas de race, il ne peut pas y avoir de race. Si tu dis au bon noir, toi bon noir, toi tu dois me ressembler, parce que nous sommes frères, il ne faut pas que le noir réponde, pas du tout, il ne faut pas te ressembler, moi je suis un vaudou, j'ai mon culte, j'ai mes croyants, j'ai mes ancêtres. Parce que ça ne va plus du tout, c'est un mauvais noir à ce moment-là, c'est un raciste. Eh bien les Indiens sont des racistes, d'épouvantables racistes. Ils veulent maintenir leur loi, ils veulent maintenir leur dieu, ils veulent maintenir leur grand Manitou, ils ont besoin des bisons. Ils n'admettent pas qu'on tue leurs bisons, parce qu'ils ne savent pas vivre sinon pas les bisons. Donc il faut tuer les peaux rouges. C'est très simple et très clair. C'est ça la guerre de sécession. On va opposer en réalité des gens qui veulent une fédération d'États, les États-Unis, sans distinction de race, surtout sans distinction de race. Et des gens qui, au Sud, vont vouloir, qui refusent cette fédération, qui veulent bien qu'il y ait une alliance, ou une confédération, une sorte d'union entre des pays différents. Il y a le Texas, il y a la Californie, il y aura un jour l'Alaska, Haïti, qui seront aussi des États américains. Tout ça, c'est très bien, mais que chacun reste ce qu'il est. Et qu'on n'oblige pas chacun à épouser une norme égalitaire. Parce que lui, le Texan, lui, le cow-boy, lui, le planteur du Sud, lui, l'Icarien, etc., l'Acadien, il n'acceptera jamais d'être semblable à un industriel du Nord. Il n'a pas les mêmes soucis, il n'a pas les mêmes problèmes, il n'a pas les mêmes dieux, à la limite. Puisque le Dieu du Nord, nous l'avons vu, c'est Jéhovah, c'est le Dieu de la Bible. Les dieux du Sud seront des dieux chrétiens ou bien autres, des dieux esprits, des dieux peut-être très proches, des dieux indiens très souvent, du Manitou indien. Le Saint-Esprit et le Manitou, c'est la même chose, vous savez. Donc, il va y avoir la guerre. Mais cette guerre n'est pas seulement entre des rationalistes, si vous voulez. Il est certain que l'industriel de Boston, le puritain de Boston, est un rationaliste, et d'une certaine manière, le Texan aussi, bien qu'il ait une religion plus intense, peut-être. Enfin, c'est un rationaliste, pour faire son coton, pour faire ses... il utilise le vieux principe de la cause à l'effet. Il y a des moyens, de bons moyens pour faire du coton et de mauvais moyens pour faire du coton. L'économie est la même, le rêve américain est le même au Sud comme au Nord. Il faut faire le grand État et le faire par le fric. Il faut être riche d'abord. Déjà, ça s'impose au cours du 19e. Ils ne sont pas riches, ils ne veulent pas devenir riches par les mêmes moyens, mais il y a quand même un certain rationalisme chez les deux, peut-être plus accentué au Nord qu'au Sud. Mais il y a aussi un irrationalisme. Il y a toutes ces sectes qui vont naître au cours du 19e et qui viennent tous de sectes européennes. Sectes de l'amour libre, sectes de la... fondées sur des légendes, sur des traditions. Et l'un des premiers à avoir créé une telle secte, enfin l'un des plus étonnants sans doute, qui s'appelait Smith, un nom vraiment très commun, il avait inventé, ou créé, ou trouvé, ou quelqu'un l'avait persuadé que, on ne sait pas s'il était à fond sincère ou pas, si c'était un illuminé ou un imposteur. Il prétendait avoir trouvé une Bible, une sorte de livre, qui aurait été écrit plusieurs siècles avant, et qui aurait raconté l'odyssée d'une tribu hébraïque. La tribu perdue des Benjamins, qui aurait été un peu partout dans le monde, fuyant déjà les persécutions. Les persécutions à ce moment-là des Juifs de David et des autres, c'est-à-dire des tribus étrangères à Benjamin. Et cette tribu aurait débarqué en Amérique du Sud dès le 7e siècle avant Jésus. Et elle aurait fait souche là, elle aurait eu des fils, il y aurait eu des familles qui seraient nées de cette origine. Ils seraient devenus la moitié indien, ils auraient poussé des Indiens. Quelquefois, ils auraient combattu les Indiens. La Bible raconte tout ça. La Bible de Smith raconte tout ça. Ils auraient combattu les Indiens. À d'autres moments, ils seraient alliés avec les Indiens. Et puis, ils auraient donné naissance à ces races dont personne ne connaît l'origine, les Aztèques, les Incas, dont nous parlions tout à l'heure. Cet homme prétendait créer une religion nouvelle, paganiste, qui reconnaissait plusieurs dieux, polygame, l'homme pouvait avoir plusieurs femmes, très en dehors de tout ce qui avait été fait jusqu'alors dans les sectes, et qu'ils appelaient l'Église des derniers saints, ou les saints des derniers jours, et puis qu'on appelle nous les Mormons, à la longue. Parce que ça a survécu jusqu'aujourd'hui. Ça a survécu jusqu'aujourd'hui, mais la guerre de sécession, là encore, brise l'essor. Smith lui-même a été assassiné, d'ailleurs, il faut le dire, il a été assassiné assez vite. Et ce sont ses élèves, ses disciples, qui ont continué de défendre sa secte, notamment à Lake City, et qui est un haut lieu d'Amérique. Et la guerre de sécession a supprimé toutes ces sectes paganistes, bien sûr, puisque les puritains ne pouvaient pas admettre ce genre de choses. Mais elle est revenue à la surface à la fin du siècle, comme bien d'autres sectes. Et elle existe aujourd'hui très atténuée, très affaiblie, par l'action de gens comme Jung, Y-O-U-N-G, il ne faut pas confondre avec Jung, qui à la fin du siècle a rénové cette secte, alors sans polygamie, sans polythéisme, très affadie, mais qui honore toujours, qui croit toujours dans la Bible de Smith et qui pense toujours qu'il y aura un avènement dans l'avenir, mais avenir qui se confond bien sûr avec celui de la grande Amérique, du grand empire, comme toutes les sectes américaines le font.